Voici, chers amis de l'histoire, une nouvelle aventure de la Société d'histoire Saint-Paul-et-Mort. La Société vous offre maintenant la possibilité de connaître des tranches d'histoire de nos quartiers, et le tout sous forme de balado que vous pourrez écouter à votre rythme sur notre page Facebook Société d'histoire Saint-Paul-et-Mort. Découvrez ici votre balado. Aujourd'hui, dans le balado de la Société d'histoire Saint-Paul-et-Mort, nous allons parler de personnages qui ont vécu dans Ville-et-Mort, dans Saint-Paul, dans Côte-Saint-Paul, etc. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Albin Miller. Joseph Rodolphe Albin Miller, selon Wikipédia, est né à Montréal le 18 janvier 1935 et mort le 15 août 2018. Et c'était un acteur et metteur en scène québécois. Il a étudié au Collège de l'Assomption, puis est entré au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Il a grandi dans le quartier Ville-et-Mort, maintenant l'arrondissement sud-ouest, comme on le sait, à Montréal, près du canal de la Chine. Après 50 ans de carrière, il écrit une autobiographie intitulée « Mes amours de personnages », dans laquelle il partage ses souvenirs, des anecdotes, etc. Il était le neveu du docteur Édouard Miller, qui était né en 1882 et décédé en 1949, qui a joué un match avec les Canadiens de Montréal lors de la saison inaugurale de l'Association nationale de hockey en 1910. Il va s'imposer rapidement comme un acteur possédant plusieurs cordes à son arc, en incarnant des personnages tant dans des pièces classiques que modernes. Il joue notamment dans des pièces de Benoît Brecq, Paul Claudel, Jacques Ferron, mais aussi dans des œuvres les plus classiques comme Hamlet, Don Juan, Le Festin de Pierre, Tartuffe ou L'Imposteur et Le Misanthrope de Molière. Il est très souvent associé à la vie théâtrale québécoise et montréalaise, car il a fréquemment joué dans plusieurs théâtres montréalais, dont le Théâtre du Nouveau Monde. Toutefois, il participe également au Festival Chiscapérien de Stratford, en Ontario, où il est metteur en scène et comédien. Il a aussi participé à plusieurs téléromans et téléséries, dont « Au chenail du moine »,« Les filles d'Ève »,« Le courrier du roi », aussi « D'Iberville », ainsi que « Edgar Allan, détective ». Il a aussi été impliqué dans de nombreuses productions de téléthéâtre de Radio-Canada, dont les pièces de Racine, Shakespeare, Camus, Jacques Rampal. Il interprète le rôle d'Alceste dans la pièce Célimène et le Cardinal. Ensuite, Rostand. Plus récemment, il a fait la distribution de la télésérie fantastique Grand Ours. Il joue aussi le père de Brett Montgomery dans Le cœur a ses raisons. Il a été directeur fondateur du Centre Théâtre, directeur artistique, adjoint au Théâtre d'été Chantetler. Il a aussi été directeur artistique adjoint du Théâtre du Nouveau Monde, directeur artistique du Théâtre populaire du Québec, directeur artistique du Théâtre du Bois de Coulonges, secrétaire général de l'Union des artistes et président du Conseil canadien du statut de l'artiste. Donc, c'était un de nos compatriotes de Ville-et-Mort. Et pour faire suite, une autre illustre de Ville-et-Mort, Marie Huguet. Marie Huguet, née le 22 avril 1955 et morte le 26 octobre 1981 à Montréal, c'est une poétesse québécoise. Sa carrière dans le domaine de la littérature québécoise, bien que brève, est marquée par la publication de 2 recueils, en plus d'autres poèmes et journaux à titre posthume. Ses écrits sont teintés, entre autres, de la maladie dont elle est atteinte et dont elle succombera en 1981 à l'âge de 26 ans. Marie Huguet, née Lalonde, a vécu toute sa vie à Montréal dans le quartier de Côte-Saint-Paul, où elle est née le 22 avril 1955. Ses parents, Denise Huguet et Jacques Lalonde, tous les deux issus du milieu modeste, demeuraient dans cette grande ville depuis sa génération. L'emphase de Marie Huguet est centrée autour de son noyau familial maternel. Son grand-père, César Huguet, exerce l'ascendant sur toute la famille par la force de son caractère et sa détermination. Parti de rien, mais passionné de musique, il réussit à changer sa condition de simple ouvrier d'usine pour celle de musicien devenant professeur de musique dans différents collèges de Montréal. Il a une forte influence sur Marie Huguet, qui voit en lui la possibilité pour quiconque de changer sa condition à force de travail et de volonté, et de réaliser à travers les arts. Toute son enfance est imprégnée de cet idéal qu'il incarne. Il décide plus tard d'écrire ses propres œuvres et de les publier sous son vrai nom, donc César Huguet. Très tôt, Marie Huguet est attirée par la lecture. Elle se met à son tour à écrire des histoires qu'elle illustre de dessins et de collages. Celles-ci sont surtout inspirées de contes de princes et princesses. Elle les lit à ses amis ou devant sa classe et découvre le pouvoir de séduction que son talent peut exercer sur les autres. Marie Huguet délaisse alors peu à peu les aventures romanesques de son enfance et commence à écrire de la poésie vers l'âge de 15 ans, alors qu'elle étudie à l'école secondaire Esther Blondin dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Son intérêt ne se porte plus sur des histoires inventées, mais sur les mots eux-mêmes qui se mettent à vivre, à transmettre des émotions. L'automne 1974, elle entreprend des études en communication à l'Université du Québec à Montréal. En octobre 1975, elle rencontre Stéphane Kovac, alors étudiant dans la même faculté, qui collabora au fil des ans à ses publications et demeura son compagnon jusqu'à la fin de sa vie. Au printemps 1976, son premier recueil est complètement achevé et Marie Huguet part pour 3 mois aux îles de la Madeleine grâce à une bourse de création photographique obtenue par son compagnon, Stéphane Kovacs. C'est là-bas qu'elle ébauche les premiers poèmes de son deuxième recueil, L'Outre-vie. Des poèmes fortement influencés par le paysage maritime et les gens qui y habitent. Elle y pratique également le dessin. De retour à Montréal, son attention se porte avec un regard neuf sur la ville et sur la condition des femmes. En novembre de la même année paraît « Signes et rumeurs », publié aux éditions du Nord, du Norrois. En 76, il est composé d'une 60aine de courts poèmes. L'Outre-vie est le deuxième recueil de poèmes de Marie Huguet et est publicisé en 1979 aux éditions du Norrois. Elle écrit également pour les revues Estuaire, Possible, Vie des arts, et selon Judy Quinn, Marie Huguet incarne un archétype de la littérature québécoise d'après les Hectores de Saint-Denis de Garneau, Émile Nelligan et Sylvain Garneau, celle d'une jeunesse dévorée par une souffrance menant au silence. Et au début de septembre 1977, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer des os particulièrement agressif. Une hospitalisation de 2 mois mènera finalement à l'amputation de l'une de ses jambes. Elle sort de l'hôpital à la fin du mois de novembre, mais y retournera de façon intermittente afin de recevoir différents traitements. Lors de cette épreuve, Marie Huguet trouve néanmoins la force d'écrire. Après ce combat pour sa vie et son intégrité physique, Marie Huguet est en convalescence chez elle au début de l'année 1978 et entame la rééducation pour réapprendre à marcher avec une jambe artificielle. Elle réussit à traverser cette période car elle rêve de réaliser un premier voyage en France et à Paris, prévu à la fin de l'été 1978. Avant son départ, elle finalise la rédaction de L'Outre-vie, qu'elle remet à son éditeur. Pendant l'été, elle participe à une première lecture de poésie au Théâtre de l'Île d'Orléans, où sa prestation sur scène et la force de ses textes ont un écho immédiat. Le voyage en France ne réussit finalement pas à lui remonter le moral. Paris est une ville qui se découvre à pied et elle a peine à suivre le rythme. Marie Huguet reste pourtant très active, elle allant parfois au-delà de ses limites physiques, et elle participe à de nombreuses lectures de poésie où sa voix est toujours une présence exceptionnelle. Elle se distingue notamment à la Nuit de la poésie en mars, alors soutenue par une canne. Sa prestation fera partie du film réalisé lors de l'événement par Jean-Claude Labrec et de Jean-Pierre Masse pour l'ONF, la Nuit de la poésie, 28 mars 1980. À la fin de la même année, le cinéaste Jean-Claude Labrec, impressionné par sa détermination et sa poésie, lui propose de faire un film sur elle. Une collaboration à ce sens se poursuivra tout au long de l'année de 1981, pendant laquelle elle subit de fréquents assauts de sa maladie, tout en poursuivant l'écriture de son recueil Autoportrait. De nouvelles complications de son état de santé menaceront le projet de film, tandis qu'Anne Siri l'entra en entretien avec l'écrivain Jean Royer, sont tournées en septembre. Un mois plus tard, alors que l'équipe était à leur troisième journée de tournage, Marie Huguet entre à l'hôpital. Elle demandera à Jean-Claude Labrec de tourner dans sa chambre d'hôpital, ce qu'il refuse. Elle demande plutôt à Stéphane Kovac de lui envoyer des photographies de ce qu'il voyait Marie Huguet à l'hôpital. Les photographies qui sont reprises dans la séquence finale du film, le 26 octobre 1981, Marie Huguet meurt à l'hôpital. Donc voici un peu l'histoire de ces personnages et surtout Marie Huguet aussi, parce qu'aujourd'hui, Marie Huguet, nous avons toujours la maison, la culture Marie Huguet à Villemort.